Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Ça va tout le monde aujourd'hui?
Oui.
Je viens de voir des belles photos de chez mon frère en Suisse, il fait beau comme chez nous. Mais ils ont eu un petit peu de neige hier, mais pas beaucoup. Nous, on n'en a pas eu. Ouf. Bon, ce matin, on va aborder un sujet un peu... pas difficile, mais voilà quoi. Un sujet qu'il faut aborder. Ève et Adam, je dis bien Ève et Adam parce que c'est quand même Ève qui a commencé. Hein. Ève et Adam ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va lire Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur, c'est Jésus qui parle à des religieux. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà ce que Jésus dit à ces religieux. On me demande souvent, mais quelle est la vraie Église? On ne sait pas, c'est difficile, comment faire pour choisir, où est-ce qu'il faut aller bon. C'est une question qui mène dans une mauvaise direction. Parce que la vraie Église, c'est l'assemblée des personnes qui s'efforcent de vivre ce qu'ils ont compris des Saintes Écritures. Et tout le monde pense qu'ils ont compris ce qui est dans les Saintes Écritures. Le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours vrai. Ce qui est important est de connaître personnellement les Écritures et la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus dit là. Il faut connaître les Écritures et la puissance de Dieu. Alors, beaucoup lisent les Écritures, mais ne les comprennent pas. Beaucoup prient le Dieu tout-puissant, ils disent qu'il est tout-puissant, mais il ne se passe jamais rien. Ils ne sont pas exaucés. Alors, je dis, mais pourquoi ils prient? Moi, j'arrêterais de prier, moi, s'il n'y avait pas d'exaucement de prière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, c'est-à-dire ce que Dieu veut que nous connaissions. Et, car, mon frère, ma soeur, quand on est né de nouveau, nous ne sommes plus sous le poids de la connaissance du bien et du mal, on est sous autre chose, dans une autre connaissance. Bien sûr, on sait faire la différence entre le bien et le mal. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, celle où nous pouvons connaître Dieu et sa puissance. C'est ça qui est important pour nous. Adam connaissait Dieu et sa puissance, mais il a préféré la connaissance du bien et du mal. Il a écouté le diable, et puis voilà, maintenant le monde entier est plongé dans cette connaissance-là. Le bien, le mal, on en revient toujours là. Les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien, ils ont vu, ils connaissaient pas Dieu, mais ils ont vu la puissance de Dieu. Le problème, c'est qu'ils connaissaient pas Dieu. Même Moïse, il dit, mais comment tu t'appelles? Ben, voilà. Alors, on va lire Colossiens 1, 9. Colossiens 1, 9. Voilà ce qu'il dit. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est un immense résumé de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais il nous faut connaître la volonté de Dieu. Il faut être rempli de la connaissance de ce que Dieu veut. Pour soi-même, d'abord. pour soi-même. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et cela, en toute sagesse et intelligence spirituelle, il dit, hein, parce que on peut s'imaginer des choses. Il y a des gens qui disent la Bible, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Non, on peut pas lui faire dire ce qu'on veut. Elle est très claire, c'est ceux qui ne l'ont pas lu qui disent ça. Ou qui l'ont mal lu, ou qui l'ont lu en diagonale, enfin je sais pas. Alors, observez autour de vous. Observez autour de vous combien prétendent connaître Dieu, ce que Dieu veut, et se trompent. On a un exemple en France magnifique, je ne veux pas dire son nom, mais qui se trompe sans arrêt, il fait des calculs extraordinaires, en partant des 7 semaines de Daniel, de l'alignement des planètes, de l'âge du chef de gare, et puis pour essayer de donner la date de la venue de Jésus, et il se trompe tout le temps, mais il continue, et il a toujours des adeptes, hein, et les gens, ils aiment bien ça. Observez autour de vous, combien se trompent, parce qu'ils manquent d'intelligence, c'est ce que Paul dit, ils manquent d'intelligence. Il a l'air intelligent, oh là là, il a l'air intelligent, hein. Mais quand on regarde les fruits, ben on voit que c'est que de la bêtise. Plutôt que de faire des calculs comme ça, au sujet de choses qui lui passent par-dessus la tête, et il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, il ferait mieux de prier pour que le Seigneur lui donne un esprit de sagesse, de révélation de sa connaissance, de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour les autres, pour ton peuple? Qu'est-ce que tu veux? Je me rappelle, quand il y a eu la guerre des 6 jours, tous les chrétiens étaient en effervescence en disant, on passera pas l'année, Jésus va revenir. Bon, on est encore là. Ils croient avoir des révélations, ils analysent ce qui se passe, et puis ils essayent de bricoler avec des passages de la Bible pour essayer de comprendre. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sont leurs fruits, ce ne sont que des manifestations de leur imagination déréglée. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'ils connaissent ni Dieu, ni sa puissance. 1 Jean 2,4 nous dit, celui qui dit qu'il connaît Dieu et que Dieu lui montre des choses et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Jésus est clair. C'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Il dit qu'il connaît Dieu, mais il ne garde pas les commandements de Dieu. Alors, c'est un menteur. On va lire 1 Jean 3,10. 1 Jean 3,10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la justice? Il ne pratique pas la justice. C'est-à-dire qu'il ne pratique pas ce que Dieu veut. C'est ça, là, ne pas pratiquer la justice. Et ils vivent comme ils veulent. On va lire 1 Corinthiens 2,11. Vous voyez, on fait pas mal de lectures ce matin, mais j'aime beaucoup appuyer ce que je dis avec les Écritures. 1 Corinthiens 2,11. Je dis là. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Il ne suffit pas de s'imaginer qu'on a reçu le Saint-Esprit pour penser qu'on connaît la volonté de Dieu. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, vous pouvez être éclairé au sujet de ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est tout. On ne peut connaître les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne contredit jamais les Saintes Écritures. C'est quand même terrible, n'est-ce pas? Dans Proverbe 9:10, il nous est dit que la science des saints, c'est-à-dire de ceux qui se sont mis à part pour servir Dieu comme Dieu le veut, eh bien leur science, c'est l'intelligence. Alors, ça fait sourire beaucoup de non-croyants qui pensent qu'on est des abrutis. Il y a beaucoup d'abrutis parmi les croyants, c'est un fait, mais il ne faut pas généraliser, hein. Il y en a aussi beaucoup ailleurs. Hein. Voyons, est-ce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui marchent d'une manière digne du Seigneur et qui lui sont entièrement agréables, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je vous laisse répondre. À cela, Paul dit dans Colossiens 1:10, j'espère que je l'ai noté, non, je n'ai pas noté, Colossiens 1:10, oh, c'est dommage, je ne l'ai pas noté. Ah oui, c'est ce qu'on vient de lire là. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et Jésus est très clair, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est écrit dans Jean 17, 13. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils aient une relation avec toi. Ils te connaissent. C'est dans Jean 17, 3. Et mes frères et sœurs, la paix et la grâce nous est multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Pierre 1, 2. La paix et la grâce nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix et la grâce. C'est ce qu'on veut tous, hein. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart de ceux qui prétendent avoir des révélations, ils ont des révélations négatives, qui font peur? Est-ce que vous avez remarqué ça? Des catastrophes, magie noire, condamnation. Je vous dis ça, je vous dis, les gens, ces gens-là, parlent de leur propre fond. Parce que Dieu ne condamne absolument personne. Il condamnera, c'est sûr, un jour il condamnera. Au grand trône blanc qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il jugera les gens. Voilà. Pour le moment, il ne condamne personne. Vous allez me dire, ah bon, bien sûr. Pour le moment, il voit tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde, au travers du sang purificateur de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, parce qu'il aime tout le monde. Et c'est écrit, et principalement pour ceux qui croient en lui. Ben évidemment, il fait quand même une petite différence, il connaît tout, il nous voit. Donc principalement pour ceux qui croient en lui, c'est obligé. On peut dire ça dans 1 Timothée 4, 10. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Ah, Il est le sauveur de tous les hommes. Jésus-Christ, pour le moment, il voit tout le monde est sauvé pour lui, il n'y a pas de problème, mais principalement les croyants, parce qu'il connaît tout, il sait tout. Mais il ne juge pas, il ne condamne pas, il n'y a pas de... Nombre 23-23, qu'est-ce qui est écrit là? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est-à-dire contre les enfants de Dieu. La magie, la divination, toutes ces magies, ces trucs, ça n'a aucun pouvoir contre un enfant de Dieu. Ça peut vous déranger un petit peu, mais ça peut pas vous faire du mal réellement. Comment peut-on dire à un chrétien qu'il est sous une forme de condamnation alors que Romains chapitre 8 verset 1 nous dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Mais comment on peut aller dire à des gens qui sont victimes de magie noire ou de je ne sais quoi, de machin, de trucs, et qu'il faut allumer des bougies blanches, c'est des âneries, de la gnognoterie, comme on dit chez moi dans le canton de Vaud. Ils sont égarés dans leurs propres pensées pour dire des choses comme ça. Ils sont égarés dans leurs propres pensées. Paul dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur intelligence a été, ils sont sans intelligence, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 21. Qui c'est qui les a plongés dans, leur ténèbres, dans les ténèbres? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître la vérité. Ils cherchent pas à connaître la vérité. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. C'est effrayant. Comment ils osent? Un jour, j'étais dans mon bureau rue Legendre à Paris. C'est vieux, hein. Et il y a un chrétien qui est venu vers moi. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Je dis, ah bon? Déjà, je me méfie un peu de lui parce qu'il était un petit peu loufoque. Et puis il me dit, je t'ai vu en vision couché dans un cercueil, ça veut dire que tu vas bientôt mourir. C'était dans les années 80. Je suis toujours pas mort. Mais vous savez, sur le moment, ça m'a rien fait. Je suis un peu fada. Mais après, vous y repensez. On y repense. Et j'ai chassé cette sale idée au nom du Seigneur Jésus-Christ pour être tranquille. Puis le type, qu'on invitait souvent, je l'ai plus invité du tout. Parce que non, s'entourer avec des gens comme ça, non, merci. Est-ce qu'il avait eu une révélation? Non. C'est pas Dieu qui lui a dit, c'est même pas le diable qui lui a dit, c'est juste son intelligence déréglée. Le diable s'amuse pas à dire des trucs pareils, il a d'autres choses à faire beaucoup plus importantes. En 2015, il y a un autre chrétien qui a écrit carrément que j'allais mourir en septembre 2015. Ça fait drôle de lire un truc pareil et d'apprendre ça. Ça m'est arrivé souvent quand même que des gens me disent « tu vas mourir ». Bon, ça arrivera un jour, vous inquiétez pas, un jour je vais mourir. En septembre 2015, alors septembre 2015 a passé, je suis pas mort. On est en 2023, je suis encore là. Ce sont des gens sans intelligence. S'ils étaient intelligents, ils ne s'aventureraient pas à dire des trucs pareils. Leurs cœurs ont été plongés dans les ténèbres. Ils font peur aux gens. Ça les amuse. Même si on est fort spirituellement, ça peut nous troubler d'entendre des trucs pareils. Paul écrivait aux chrétiens de Galates, Galates 4:9, et il leur disait, maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Comment ça se fait que, bon, il dit, vous connaissez Dieu. Enfin, c'est plutôt Dieu qui vous a connu. C'est lui qui nous a aimés le premier. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Et puis, il est venu comme un bon berger. Il nous a trouvés dans les ronces du péché. Il nous en a sortis. Comment ça se fait que vous vous laissez asservir par des gnognoteries par des idioties, des révélations à la noix de coco qui ne valent même pas 2 balles. J'aime bien les noix de coco, mais bon. Ne vous laissez pas asservir par ces gens. Jésus a dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça c'est dans Jean 8, 7. Celui qui a soif d'écouter les choses de Dieu, ça prouve, ça montre qu'il est de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est écouter Dieu? Est-ce que c'est avoir des révélations sur les frères et les sœurs? Non, c'est pas ça écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est lire la Bible avec l'intelligence, avoir l'intelligence, demander à Dieu l'intelligence spirituelle, et puis comprendre pour pouvoir comprendre ce qu'on lit. Parce que vous avez des gens qui tordent tellement les Écritures, quand Jésus dit quelque chose, ils le tordent d'une manière, mais c'est génial, c'est fantastique. Mais où est-ce que vous voyez des gens qui écoutent Dieu et qui vivent selon sa volonté? Parce que quelqu'un qui écoute Dieu, il vit selon la volonté de Dieu, il vit plus n'importe comment. Nous prenons que Luc, que ce que Luc écrit on trouve ça dans Actes chapitre 2, verset 42. Écoutez bien. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Persévérez-vous dans ces choses? Oh oui, le dimanche matin entre 10h et midi. Ça me fait rire. Lisez un petit peu, qui c'est qui faisait ça? Qui c'est qui persévérait? Comment? Lisez dans acte 2, acte 4. Et puis essayez de voir si ça colle avec votre vie. Cette semaine, je parlais avec un chrétien au sujet des manuscrits de la mer morte, des découvertes qui ont été faites à Nag Mahdi, des manuscrits. Et il m'a dit, oui, alors j'écris exactement ce qu'il m'a écrit. Je me méfie de ces soi-disant révélations ou découvertes tardives, car rien ne prouve leur autorité, car on ne sait pas quel blaireau a écrit ces trucs. Je me contente des écrits que nous avons reçus et qui ont été transmis, qui ont traversé des siècles et sur lesquels le Seigneur a veillé scrupuleusement. On a déjà beaucoup à faire avec les 66 livres de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible et on est loin d'en avoir fait le tour. Ah ça oui, ah ça on peut dire, des chrétiens sont loin d'en avoir fait le tour et moi-même encore, il y a des choses que je découvre. Mais quand je découvre les choses, je me mets tout de suite à le faire. Je lui dis, tu as raison, moi je... En ce moment, je lis un livre écrit par un blaireau, c'est Gaston Lagaffe. C'est pour ça que j'ai mis sur Révélation Bible une photo de moi avec le dernier livre Gaston Lagaffe, que je vous recommande hautement, c'est spirituel. Il faut lire un peu de tout, il faut aussi s'amuser. Lui veut ignorer que Jude, l'apôtre Jude, s'est servi d'une prophétie de Enoch, on trouve ça dans Jude 14, 15, exactement comme les Esséniens, Jude avait le livre d'Enoch. Puis il a été interdit, le livre d'Enoch, par qui? Par ceux qui ont choisi les 66 livres de la Bible, mais ça, je sais pas. Eh bien, ce texte que Jude cite est bel et bien un texte écrit par Enoch le 7e depuis Adam, comme il le dit lui-même, et ce n'est pas un blaireau qui a écrit ce texte, retrouvé dans les manuscrits de la mer morte, ou dans le livre d'Enoch, donc qui existe, qui dans le chapitre 1, le verset 9, c'est la même chose. Ce que Jude écrit, au verset 14 et 15, on le trouve dans Énoch 1, verset 9. Des blaireaux. Voilà où on en est. Ces chrétiens prétendent que seuls les 66 livres que nous avons dans notre Bible sont authentiques et les autres livres ont été écrits par des blaireaux. Mais ils ne savent pas qui a choisi les 66 livres. Ils ne veulent même pas savoir. Ils lisent que la Bible. Lisez Gaston Lagaffe. Ça vous décoincera un petit peu. De toute façon, ils ne pratiquent pas ce qui se trouve dans les 66 livres dont ils se réclament en disant c'est la parole de Dieu. Par exemple, Jean 13, 12. Jean 13, 12. Jésus, après leur avoir lavé les pieds, reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison parce que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Le mot « heureux », c'est « achéri » qui signifie « en marche, en progrès ». Mais ils ne le font pas. « Seigneur, Seigneur !» Mais ils ne font pas ce qu'il dit. Vous voudriez que j'aille dans ces églises ? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis religieusophobe. Je ne peux pas. Je ne supporte pas. Ah bon ? Est-ce qu'on est certain que c'est Jésus qui a dit qu'il fallait qu'on se lave les pieds les uns les autres ? Ça ne serait pas peut-être un blaireau qui aurait rajouté ça au cours des siècles ? D'ailleurs, la preuve que c'est un blaireau qui a rajouté ça au cours des siècles, c'est que personne ne le fait. Quand même, les pasteurs et les curés qui ont fait des études pendant des années dans les écoles de théologie, s'ils font pas le lavage des pieds, c'est bien pour une raison. Ils savent, eux, hein? C'est parce que c'est des paroles qui ont été rajoutées. Les musulmans disent ça, certains chrétiens ne le disent pas, mais ils font comme, tout comme. C'est les blaireaux qui ont écrit ça, c'est pas Jésus qui a dit qu'il fallait se laver les pieds. À quoi ça sert de se laver les pieds? Jésus dit, vous devez le faire, vous aussi. Ah bon, on doit, c'est un commandement? Oui. On n'est pas sous une loi, on est dans la grâce. Donc vous voyez bien que ça colle pas. C'est un blaireau qui a écrit ça. Alors, moi, je vous conseille une chose, vous prenez un feutre noir, et puis vous enlevez ce passage de Jean 13, 12, 17. Là où Jésus dit qu'il faut se laver les pieds les uns les autres. On le fait pas. Les théologiens, ils savent que c'est des blaireaux qui ont écrit ça. C'est comme par exemple 1 Corinthiens 15, 29, c'est un blaireau qui a rajouté ça, c'est pas possible. Sinon on le ferait. Mais on le fait pas, pourquoi? Ben parce que c'est un blaireau qui a rajouté ça. Sale blaireau! Ou acte 2, acte 4, c'est des blaireaux qui ont rajouté ça, c'est pas vrai. En fait, la Bible a été écrite par des hommes saints et des blaireaux, et voilà. Vous voyez, certains sont enténébrés, empêtrés dans la connaissance du bien et du mal, et en général, ils voient plus le mal que le bien. Il nous faut connaître ce que notre Maître et Seigneur nous a enseigné, et puis il faut faire ce qu'il nous a dit de faire. Parce que si on fait que de connaître, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça qui nous est ordonné, c'est de faire la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, d'être rempli de toute la connaissance de la volonté de Dieu, pour dire, ah ben je connais la volonté de Dieu.
mais je ne la fais pas.
Alors, pour pouvoir manifester les 9 dons surnaturels qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, alors on s'étonne que dans les églises, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus rien qui se passe, ou si peu. Mais il faut d'abord être humble, il faut chercher Dieu, il faut le connaître, connaître ce qu'il veut, pour soi-même d'abord, puis ensuite on peut chercher à édifier le corps de Christ avec les 9 dons, pas à les descendre en flèche, mais à l'édifier, édifier l'Église, construire l'Église. Parce que si on ne connaît pas d'abord la volonté de Dieu, si on ne connaît pas Dieu et si on ne connaît pas sa puissance, on risque de glisser dans des manques de sagesse et faire souffrir les gens. Et malheureusement, je reçois beaucoup, beaucoup de lettres, de mails, de messages de gens qui souffrent, mais qui restent quand même dans ces machins. Je comprends pas. Il y a un non-sens. Alors, cherchez dans les Écritures saintes, cherchez aussi dans ce que les pierres racontent. Ah bon? Oui, Jésus a dit quand les gens cesseront de me louer, les pierres crieront. Eh bien, comme les gens font plus que de le louer avec des paroles, avec les mains en l'air, alléluia, glo, 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 comme il n'y a plus que ça maintenant, ou alors se rouler par terre pour la plus grande gloire de Dieu, ben maintenant les pierres crient, c'est-à-dire l'archéologie. Écoutez ce que les archéologues découvrent. Regardez, ça correspond avec ce qui est écrit dans ce vieux livre. Cherchez dans la méditation. Il n'y a pas besoin d'allumer une bougie blanche et puis de mettre une musique baba cool pour méditer. Non, méditer ça veut dire réfléchir. Réfléchir sur ce qu'on lit et Dieu se révèle dans la simplicité. Sans nous faire de reproches, sans tous ces artifices bidons, alors que Dieu nous aide à être simples. Mon frère Thierry me disait, j'aime la simplicité. Il a raison, la simplicité. Ce que Jésus dit, c'est simple, on comprend ce qu'il dit. C'est pas compliqué, à moins qu'on veuille pas comprendre, ou qu'on fasse semblant de pas comprendre. Ou qu'on se méfie de tout. C'est peut-être des béraux qui ont écrit ça. Mon Dieu. Seigneur, je te prie pour ces chrétiens qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes alors qu'ils ne mettent pas en pratique ce que tu commandes de faire. Je te prie pour notre petite communauté afin que nous comprenions encore davantage ce que nous avons à faire. Et que nous puissions le faire pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur, de nous aider, de m'aider à être quelqu'un qui est attentif pour comprendre quelle est ta volonté afin de pouvoir la faire, pour glorifier ton nom, pour que ta gloire éclate. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Au revoir.